Vous écoutez
RMC.
Il est 8h passé de 1 minute. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vraiment aucun répit, la France désormais balayée par les orages, on vient d'en parler. En plus des incendies comme celui de Fontainebleau, va se rendre Emmanuel Macron dans la matinée. Le président qui salue l'adoption définitive du projet de loi sur la fin de vie, l'engagement sociétal de son deuxième quinquennat. On va vous dire dans le journal qui sera concerné, quand et comment, vous allez tout savoir. Et puis on va prendre aussi des nouvelles des Bleus, le moral dans les chaussettes, vous verrez, avant la petite finale contre l'Angleterre sera samedi à la Coupe du Monde.
Emmanuel Macron va donc se rendre ce matin dans la forêt de Fontainebleau.
Oui, pour saluer, nous dit l'Élysée, le travail des 950 pompiers toujours engagés contre les feux qui ne sont pas totalement éteints ce matin et pour lesquels deux suspects ont donc été placés en détention provisoire dans la soirée. Mais les nouvelles sont plutôt rassurantes, là, au moment où on se parle, et les habitants des communes évacuées, comme ici au Vaudoué, ont pu redormir chez eux cette nuit, nous dit Caroline Renaud.
Son jardin jonché de cendres, ses fenêtres pleines de suie, rien qui ne pourrait gâcher le soulagement d'Annie.
Je suis content de rentrer chez nous, de retrouver notre maison. On se dit, on s'en va, mais peut-être qu'on la retrouvera pas.
Mais impossible de se défaire de cette boule au ventre.
C'est traumatisant. On va pas dormir profondément. Certainement se réveiller plus d'une fois en se disant, bon, j'espère que tout va bien, que ça va pas recommencer.
Les habitants scrutent donc la moindre fumerole.
Ouais, il y avait un truc, je l'ai noyé.
Ah, super.
Comme Corinne.
En se promenant, on peut toujours voir s'il y a des flammes sous-jacente ou quelque chose comme ça. S'il y a des départs de feu ou pour signaler tout de suite.
Un peu plus loin, Marine arpente la forêt, elle aussi, dans une odeur de brûlé.
C'est noir, c'est blanc, mais il n'y a plus de couleur, quoi.
Difficile de revenir entre les pins et les chênes noircis.
C'est vrai qu'on a notre fille qui ramasse des fleurs, qui fait des roulades par terre dans la mousse. Voilà, bah, ça, elle ne pourrait plus le faire.
Et au lieu du chant des oiseaux.
Là, on n'entend rien. Le vent, les moteurs, des engins, les sirènes, et il n'y a plus d'animaux, quoi.
Elle s'inquiète de devoir s'adapter à un paysage meurtri qui mettra des années à repousser.
Et alors, comme si ça ne suffisait pas, la France est donc désormais balayée par les orages. Ils étaient violents hier en Charente-Maritime, en Côte d'Or, en Ardèche aussi, où on parle carrément de grêlons gros comme des boules de pétanque à Aubenas. Anthony Kaczmarek, ça mérite quelques explications. Comment on explique justement cette violence là qui est rapportée dans les régions concernées?
Ce qui booste les orages, c'est la chaleur. C'est elle le carburant de cette grosse pile électrique qu'est le cumulonimbus, le nuage d'orage. La chaleur, elle s'est accumulée depuis un mois de manière inédite. Une canicule a suivi l'autre. Concrètement, il n'y a jamais eu autant de carburant disponible à la formation des orages. Il se forme lorsque de l'air plus humide et plus frais se confronte à l'air chaud. Plus il fait chaud, plus ils peuvent être violents, plus le nuage d'orage peut grossir et produire des phénomènes extrêmes. On parle de supercellules orageuses avec pluie, vent et grosses grêles. L'air chaud, ça monte, ça c'est de la physique. Plus l'air est chaud, plus les courants ascendants sont puissants, plus les particules d'eau dans le nuage montent très très haut, propulsées comme dans un ascenseur ultra rapide. Elles gèlent, elles s'alourdissent, puis elles retombent sous la forme de gros grêlons.
Et c'est donc dans ce contexte que les députés et les sénateurs vont se réunir à 9h ce matin en commission mixte paritaire pour tenter de s'entendre sur une version commune du projet de loi d'urgence agricole. On est en pleine période de sécheresse, le projet qui n'a cessé de grossir tout au long de son examen parlementaire, 23 articles au départ, on est à 80 quand même à la fin. Le Sénat, soucieux de lever les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs au point de crisper le gouvernement sur la question du partage de l'eau. Et alors ça, eh bien ça intervient au lendemain de l'adoption définitive au Parlement du projet de loi sur la fin de vie. Ce texte promis par Emmanuel Macron, engagement de son deuxième quinquennat qui fait donc entrer la France dans le cercle restreint des pays autorisant l'aide à mourir. Ça s'est joué à 50 voix d'écart. Hier, ça fait 4 ans qu'il en est question. Thomas Becker du service politique à RMC, soyons très concrets. Qui est concerné?
Alors, ce sera réservé aux malades qui souffrent d'une affection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé en phase avancée ou terminale. Autre critère, que la souffrance du patient soit intraitable ou insupportable après avoir refusé tout traitement. Dernier critère, que le patient manifeste sa volonté de manière libre et éclairée. Alors, si tout est réuni, c'est un médecin qui prend la décision sous 15 jours après avoir consulté l'avis non contraignant d'un spécialiste de la pathologie et des proches du patient.
Bon, on parle là d'une aide à l'hôpital, mais aussi à domicile.
Oui, les deux seront possibles, mais tous les médecins ne seront pas tenus de prescrire le suicide assisté ou l'euthanasie, c'est la fameuse clause de conscience. En revanche, les établissements de santé ne pourront pas refuser l'accès à l'aide à mourir entre leurs murs. Pour la méthode, c'est le patient qui s'administre lui-même la substance létale. Le médecin n'intervient dans cet ultime acte seulement si le patient en est incapable physiquement.
Et alors l'entrée en application, en principe, c'est pour le début de l'année prochaine, hein, c'est ça ?
Oui, il faudra déjà un délai d'un mois avant de promulguer la loi. Ça, c'est le temps que le Conseil constitutionnel vérifie que le texte est bien conforme. Ensuite, il faudra encore plusieurs mois pour rédiger les décrets d'application qui encadrent précisément le protocole. Par exemple, choisir le produit létal utilisé, c'est un long travail sur lequel planche déjà la Haute Autorité de Santé. Donc les premiers patients devront certainement attendre le début de l'année 2027.
La politique ce matin, c'est aussi le gouvernement qui lance aujourd'hui la troisième vague de son leasing social pour permettre à 50 000 ménages modestes de s'équiper d'une voiture électrique neuve pour moins de 200 euros de loyer par mois. Il y a du bon, il y a du moins bon aussi, notamment les concessionnaires qui font grimper l'addition. C'est ce que nous dit notre correspondante à Marseille, Anna Jojard.
C'est pour moins utiliser sa voiture diesel dans les trajets du quotidien que Benjamin fait sa demande pour un leasing social.
Le véhicule que je vise, il coûte 109 euros par mois. Mon loyer équivaut à un plein de gasoil que je ne ferais plus sur ma voiture actuelle. Sans ce dispositif, je n'aurais pas pu me permettre d'avoir un véhicule électrique.
Mais d'autres candidats au dispositif sont eux refroidis par le coût final de l'opération, comme Paul qui s'est renseigné pour un véhicule annoncé à 139 euros par mois.
Et on se rend vite compte qu'en fait, arrivé en concession, la prise domestique, on la prend ce qu'on en a besoin, c'est 400 euros de prestations en plus. Puis la vitre de gravage, c'est 200 euros. On va se faire comprendre fortement qu'il faut prendre aussi l'assurance et l'infinité, surtout à payer des 180, voire 200 euros par mois.
Et les modèles éligibles à ce leasing social ne seraient pas toujours adaptés aux foyers les plus modestes, selon Marc Bruchet, président de la branche concessionnaire à Mobilience.
Les ménages les plus contraints, ils sont monomotorisés. Ils ont besoin d'un véhicule qui soit polyvalent. Alors évidemment, le véhicule électrique, il n'est pas du tout adapté. D'autant que pour faire baisser les prix, vous avez des véhicules qui sont équipés de petites batteries.
Et il plaide plutôt pour un dispositif de prime à la conversion vers des véhicules moins polluants.
La Coupe du Monde aura donc une finale Espagne-Argentine dimanche.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et comme d'habitude, les commentateurs argentins étaient tout en retenue hier.
Messi met dans le centre.
On les comprend, hein, on comprend leur euphorie quand l'Argentine a renversé l'Angleterre 2-1 avec deux buts à la 85e et 92e minute. C'est fou de jouer deux finales de suite, dit l'Argentin Lionel Messi. L'Anglais Harry Kane, lui, se disait écœuré, ne comprenait pas la stratégie défensive de son entraîneur. Ça promet avant la petite finale que la France jouera donc samedi à Miami, 23h contre l'Angleterre. Florent Germain, vous avez revu les Bleus, tiens, hier à l'entraînement à Boston.
Oui, l'heure est encore à la déprime chez les Bleus. Lors de l'entraînement hier à Boston, les visages étaient fermés et la défaite face à l'Espagne n'est pas prête d'être digérée. Didier Deschamps a eu un long échange avec Lucas Digne, auteur d'une faute maladroite qui a provoqué le pénalty et le premier but espagnol. Certains leaders ne comprennent toujours pas comment l'équipe a pu effectuer cette prestation amorphe dans une demi-finale de Coupe du Monde pendant que le staff continue de pester contre certaines décisions arbitrales. Tous rêvaient d'une revanche contre l'Argentine. Au lieu de cela, l'équipe de France s'envole aujourd'hui pour Miami à deux jours d'une petite finale contre l'Angleterre qui ne suffira pas à la consoler. Seuls enjeux pour samedi, viser une troisième place, permettre peut-être à Kylian Mbappé de finir meilleur buteur du mondial et offrir une sortie honorable à Didier Deschamps.
Bon, heureusement qu'il nous reste le Tour de France. Hier, c'est un Norvégien qui a gagné à Nevers. Je vais laisser Apolline prononcer son nom.
C'est vraiment un cadeau empoisonné. Soren Varenschild.
Exactement, il disait comme ça dans l'intégral Tour sur RMC. Ce sera tout plat aujourd'hui. Ça repartira du circuit de Manicourt jusqu'à Chalon-sur-Saône, 179 km plus loin, en attendant les Vosges demain.
Merci de ce petit cadeau. C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Lechypre, le taux du livret A va augmenter. C'était d'ailleurs le ministre de l'économie qui nous l'avait dit.
Absolument.
Il y a une semaine, mais ça y est, on sait de combien et c'est la première fois depuis 3 ans et demi.
Absolument. Alors vous connaissez la procédure sur proposition de la Banque de France. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a accepté donc hier que le taux du livret A et du livret de développement durable remonte de 1,5 à 1,7%. Le taux de rémunération de ces deux livrets réglementés était encore à 3%, hein, il faut le rappeler, début 2025. Mais il n'avait cessé d'être abaissé depuis dans le sillage de l'inflation, qui à l'époque ne cessait de reculer. Mais voilà, la hausse des prix est repartie à la hausse avec la guerre dans le Golfe Persique pour atteindre 2% sur un an en juin. Et donc, cette augmentation du taux du livret A, bah, elle court un peu après la hausse des prix, mais elle ne compense pas puisque aujourd'hui, c'est très simple, vous vous appauvrissez si vous laissez votre argent sur votre livret A. Admettons que vous ayez 5000 euros sur votre livret A. Pour garantir ce capital, bah, il faudrait qu'il augmente au même rythme que l'inflation, 2%, donc ça ferait 100 euros de plus sur l'année, mais avec un taux du livret A à 1,7%, eh bien, il n'augmentera que de 85 euros. Donc, vous perdez concrètement 15 euros sur l'année.
Pourquoi ne pas mieux rémunérer l'épargne populaire? Et est-ce qu'il y a d'autres moyens, d'autres livrets sur lesquels puisse gagner plus?
Alors, pourquoi ne pas mieux rémunérer le placement préféré des Français? Bah, parce que le gouvernement anticipe d'abord que l'inflation va ralentir. Parce qu'on l'argent du livret A ne dort pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parfois, il sert à financer le logement social. Or, chaque hausse du taux du livret A, si elle rapporte un peu plus aux épargnants, eh bien, ce sont des emprunts plus coûteux pour les offices HLM notamment. Et puis, parce que aussi, maintenir le taux du livret A assez bas, c'est une façon d'inciter les Français à aller vers des placements un peu plus risqués et un peu moins liquides pour financer davantage les entreprises. Et ça marche, puisque depuis le début de l'année, les Français ont retiré de l'argent de leur livret A, non pas pour consommer, ils n'ont pas vraiment le cœur à ça, mais plutôt pour le déplacer vers leur assurance vie. L'assurance vie, c'est fiscalisé à la différence du livret A, mais ça rapporte quand même plus aujourd'hui, c'est un placement
alors,
plus
intéressant. Alors les fameux chiffres, chaque jour, on les guette et ils continuent à remonter?
Oui, à la veille encore d'un grand week-end de départ en vacances, bah, le prix du gazole, c'est simple, 2,03 €. Il a pris encore 1 centime depuis hier, 16 centimes en 15 jours. Il y a vraiment une tension particulière sur le prix du gazole parce qu'il y a quand même des difficultés de raffinage au niveau mondial. Ça augmente moins du coup pour le sans-plomb 95, 1,96 €, on a pris 7 centimes seulement, ça a augmenté deux fois moins vite que le gazole au cours des 10 derniers jours. Le pétrole, on est stable à $85 le baril et le gaz, même chose, mais on est quand même 25% plus cher que fin juin sur le gaz.
Merci Emmanuel, 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Restez bien avec nous dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demange. Notez aussi qu'à 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. La forêt de Fontainebleau qui a perdu 2000 hectares. Emmanuel Macron se rendra sur place ce matin, c'est elle qui l'accueillera. Valérie Pécresse est d'abord mon invité, donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après, il y aura le choix de la rédaction. Trois canicules en trois mois, des orages et des inondations. L'éco-anxiété fait son grand retour et elle frappe de plus en plus de Français. Comment gérer cette peur du changement climatique. Reportage à 8h50. Restez bien avec nous, il est 8h13.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16, le meilleur d'Arnaud de manche. Arnaud, qui revenait écouter ce matin sur une réussite bien française. Allez, un petit peu de douceur. Le parc Astérix qui va ouvrir ses portes en Allemagne.
Ah, Astérix, là. Pour une fois qu'on arrive à exporter un truc aux Allemands. Alors, ce sera le parc Astérix, comme en France, mais avec des clients qui ont du pouvoir d'achat.
Ah oui,
il va changer beaucoup de choses. Ils adorent Astérix en Allemagne. Et c'est vrai qu'Astérix, avec sa moustache jaune, son casque, son pantalon rouge, tu lui rajoutes des bretelles, c'est un petit bavarois. Alors, dans la version allemande, il y a quand même des différences. Olixia, nous devons aller à Rome. Fini de tailler ton menhir.
Bien, j'arrive, Astérix. Je ne taille pas un menhir, je détruis un mur à Berlin. Idéfix, kommen Sie. Oh, Idéfix, petit bébé, mon berger allemand de 130
kilos. C'est ça, il n'avait pas la voix d'Idéfix, là, je ne le sentais pas, voilà.
Allez, Obélix, enfile tes sandales chaussettes. Je vais voir le druide pour qu'il me donne une ration de choucroute magique. Je peux en avoir. Non, tu es déjà tombé dans le tonneau de schnapps quand tu étais petit. Alors Emmanuel Le Chypre, qui connaît bien l'Allemagne, m'a dit, il y a même des albums spéciaux pour les Allemands, qui sont des gens plus rigoureux que nous. Ils ont fait Astérix travaille jusqu'à 68 ans.
Ah oui.
Astérix à la bourse. Astérix fait du nudisme sur la plage à Dresde. Oh. Le prochain album, c'est Astérix construit des voitures de qualité. Ça change de chez nous. Mais c'est un juste retour des choses, le parc Astérix en Allemagne. Parce que nous, on a déjà un parc qui célèbre les Européens blonds aux yeux bleus. On a le Puy du Fou. Et ben, eux, ils feront l'inverse. Voilà.
Emmanuel Macron a annoncé l'interdiction des téléphones portables au lycée.
Ouais, dit comme ça, ça a l'air vachement simple. Hein. Il dit, on va faire comme ça, et hop, c'est fait. Alors que dans les faits, ça s'annonce quand même très difficile. Il doit rêver de faire tout comme ça. Il doit rêver de faire la même chose avec la drogue. Il ira voir la DZ Mafia. Bonjour les frérots. Dites donc, la drogue, là, c'est pas bien. Maintenant, c'est interdit. C'est pas bon pour les jeunes. Oh, t'es sûr de toi, le sang? C'est pas bon pour la jeunesse? Putain, merci le boss, on n'y avait pas pensé. C'est bon, on arrête, c'est bon, le deal, c'est fini, on va faire de la pâtisserie, le sang. Vous êtes d'accord, l'équipe?
Ouais, on va faire des éclairs au café, le boss. Merci de nous avoir... merci de nous avoir ouvert les yeux sur les ravages des stupéfiants, monsieur le président. Tiens, bon, le sang. Tu veux pas faire un troisième mandat?
Brigitte!
Gilles, j'ai fait un rêve formidable. Oh. Ah ouais, et c'était encore un rêve avec Mbappé. Mais non, enfin, Brigitte, arrête avec cette histoire. Le service militaire, pas de portable à l'école, Macron est clairement nostalgique de la France des années 80. Hein. J'ai peur de ses prochaines annonces. Française, français, j'ai un cancer et une fille cachée. Alors appelez-moi Dieu. J'ai aussi demandé à France Télévisions le retour de Stéphane Collaro et des Croco Girls à la télé. Chaque soir, elles chanteront « Ce mec est too much, ce mec est trop ». Je ferai aussi passer une loi pour interdire les écrans plats parce qu'on ne peut même pas poser de napperon dessus. Oui. La France sera aussi pionnière sur le Minitel et Thierry Hazard sera nommé ministre de la Culture. Et dernière chose, je réintroduis le septennat. Du coup, je reste encore 4 ans. Voilà. Ah oui, c'est too much. Ah oui, c'est trop. Allez, à demain.
Merci Arnaud Demange. Il est 8h19 et c'est évidemment le moment d'entendre vos témoignages, vos réactions. D'abord sur le WhatsApp de l'émission, Victor, nombreuses réactions sur le vote hier soir de la loi sur la fin de vie.
Et on a d'abord Ali qui nous raconte son expérience, son témoignage. Il nous raconte qu'il a perdu sa mère il y a 2 ans d'un long cancer. Il dit « J'aurais eu du mal à comprendre qu'elle puisse opter pour l'aide à mourir. J'ai peur que cette loi enlève l'envie à certains de lutter contre la maladie et de se battre et priver certains un proche de moments précieux. » Et on a au contraire Christian qui nous dit « Je m'étonne du peu d'écart de voix, 291 pour à l'Assemblée nationale contre 241. Ce pays a vraiment un problème avec les gens qui souffrent et à les libérer de cette souffrance. »
Et on est au 32-16 avec Stéphanie qui nous appelle de Nevers. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Stéphanie, vous avez eu ou vous êtes encore en rémission d'un cancer et vous avez accueilli cette loi sur la fin de vie comme un espoir pour vous.
Alors, juste une petite précision, je ne suis pas en rémission. En fait, j'ai un traitement à vie. C'est mon traitement qui me maintient en vie, puisque c'est un cancer métastatique.
D'accord.
Donc, j'avais des métastases, on ne les voit plus à l'image maintenant. Donc, j'ai un traitement à vie, j'ai repris le boulot en mi-temps thérapeutique. Enfin, je fais des projets, la vie est belle, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais cependant que voilà, le traitement, malheureusement, les cancers mutent. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir et je sais qu'une fois qu'on a épuisé toutes les lignes de traitement, c'était terminé, c'est la fin. Et oui, cette loi, en fait, est une bonne nouvelle et c'est pas parce qu'elle existe qu'on sera obligé de s'en servir.
Le simple fait qu'elle existe, c'est exactement ça pour vous. Vous avez quel âge d'ailleurs, Stéphanie ?
Moi, j'ai 51 ans.
Vous avez 51 ans.
Je suis malade depuis 47 ans.
Depuis que vous avez 47 ans, vous vivez avec ça et vous vous dites, voilà, j'espère n'avoir jamais besoin de cette loi, mais le fait qu'elle existe vous rassure.
Oui, ça rassure parce que avant, moi, la perspective que j'avais, c'était d'être obligée de partir en Suisse ou en Belgique.
Jamais, vous avez déjà pensé à ça, Stéphanie ?
Ah oui ? Oui. Et puis mon entourage est au courant. Enfin, j'ai toujours été très claire là-dessus. Quand, maladie ou pas maladie, hein, je veux dire, un accident de la route gravissime, je ne souhaite pas rester branchée sur un lit d'hôpital à végéter. J'avais donné déjà des consignes, donc les consignes ne sont pas différentes maintenant. Et puis, pas parce que la loi existe qu'on est obligé de s'en servir. C'est comme l'IVG, c'est comme les voitures à 250, c'est comme tout un tas de choses. Je vois pas pourquoi il y aurait des dérives, puisque c'est le patient qui le demande. C'est pas l'entourage, c'est pas le médecin.
Vous ne craignez pas que les garde-fous ne soient pas là. Vous ne craignez pas que ça devienne. Certains opposants disent une loi d'abandon, c'est-à-dire qu'à un moment, entre le choix pour un traitement parfois lourd, parfois coûteux, et le fait de lâcher l'affaire, de jeter l'éponge, pour reprendre les mots d'Yves tout à l'heure qui nous a appelé qui témoignait aussi de son inquiétude à lui.
Jeter l'éponge, c'est bien quand vous n'avez pas de traitement. Il faut que les gens se rendent compte que quand on a une maladie qui est lourde. C'est pas comme quand vous avez un mal de tête, vous prenez un cachet, votre mal de tête disparaît. Quand vous avez une maladie lourde, alors moi je parlais pour ma part, le cancer.
Bien sûr.
Mon traitement, je suis obligée de le prendre le soir, juste avant de me coucher. Sinon je suis malade comme un chien, je vomis de 9h le matin jusqu'à 15-16h l'après-midi. Et les médicaments, ce qu'on appelle les antiémétiques, ne font pas effet. J'ai tout essayé, il n'y a rien, je vomis plus vite. Voilà. Ces gens-là, moi je leur suggère 15 jours de traitement comme ça. Puis après, ils vont voir si les gens jettent l'éponge quand on n'a pas de solution. Enfin, c'est bien beau, mais enfin, voilà, ça c'est de la théorie. Jeter l'éponge...
Vous êtes dans la pratique, de fait, et quotidienne de cette question-là. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir pris le temps de témoigner ce matin. Stéphanie, vous dites cette formule... C'est pas parce que la loi existe qu'on va s'en servir, mais le fait qu'elle existe, effectivement, vous rassure. 8h23 sur RMC. Dans un instant, je file aussi sur BFM TV. RMC, BFM TV, mon invité, ce sera Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Je lui poserai bien sûr aussi la question de cette loi sur la fin de vie. Je l'interrogerai surtout aussi sur ces feux à Fontainebleau. Elle est la présidente de la région Île-de-France. C'est à ce titre qu'elle accueillera d'ailleurs Emmanuel Macron sur place en forêt de Fontainebleau dans la matinée. Mais elle passe d'abord dans le studio d'RMC et de BFM TV. Et c'est dans un instant, à tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h25.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clément Gouitz.
13 000 foyers privés d'électricité ce matin en France après les violents orages de ces dernières heures. Orages qui ont été particulièrement violents en Gironde, Bretagne, Savoie. Plusieurs vignobles, notamment le nord du Médoc, ont été lourdement touchés par des grêles et de nombreux dégâts. Toitures, voitures endommagées en Ardèche et en Charente-Maritime. Le Parlement dit oui à l'aide à mourir. Les députés ont donné hier leur feu vert pour créer un droit à l'aide à mourir sous certaines conditions. Réforme sociétale majeure d'Emmanuel Macron qui devrait entrer en vigueur début 2027. Une décision saluée par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Emmanuel Macron, attendu ce matin à Fontainebleau, le chef de l'État doit apporter son soutien aux 950 pompiers qui luttent contre les incendies. Incendies qui ont détruit plus de 2000 hectares dans la forêt de Fontainebleau. Deux personnes, dont un pompier volontaire, ont été mises en examen et placées en détention provisoire hier. Argentine-Espagne sera la finale du mondial. Lionel Messi et ses partenaires ont arraché hier, dans les dernières minutes, leur qualification pour la finale en battant 2-1 l'Angleterre. La France, elle, affrontera l'Angleterre pour la troisième place ce samedi.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz. Dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. On revient évidemment sur les feux à Fontainebleau. Le président de la République, d'ailleurs, elle l'accueillera, sera sur place tout à l'heure. On se retrouve dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Valérie Pécresse.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la présidente LR de la région Île-de-France. Beaucoup de questions à vous poser ce matin, aussi dans la perspective de 2027. Vous étiez candidate d'ailleurs à la dernière élection présidentielle. Mais d'abord, ces feux, ces incendies, 2000 hectares de la forêt de Fontainebleau qui sont partis en fumée. Vous avez passé quasiment la journée sur place hier. Tout à l'heure, c'était Emmanuel Macron qui arrivera. Comment vous réagissez aujourd'hui? Les nouvelles sont plutôt rassurante ce matin, un feu qui semble fixé mais encore fragile. 2000 hectares de cette forêt en plein cœur de la région Île-de-France.
Écoutez, c'est une énorme tristesse mêlée de colère parce que effectivement la forêt de Fontainebleau, c'est pas n'importe quelle forêt, c'est une forêt classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une forêt que énormément d'amoureux de la forêt connaissent, que tous les amoureux de la VARAP connaissent, puisque c'est un spot international de d'escalade. Enfin, c'est un site absolument splendide. Et hier, j'ai vu un spectacle de désolation, c'est-à-dire un spectacle lunaire avec des cendres. Et vraiment, tout le monde est dans le choc de ce qui s'est passé, dans le choc d'autant plus que ce sont des esprits malades qui sont à l'origine de ces départs de feu. On sait que ce sont des pyromanes qui ont lancé cet incendie, en partie au moins, et donc vraiment un sentiment d'un immense gâchis.
D'un immense gâchis, les moyens, d'abord humains, 950 personnes mobilisées, plusieurs canadaires. Emmanuel Macron devrait d'ailleurs remercier, semble-t-il, les équipes qui sont encore à pied d'œuvre hein, pour tenter de maintenir ce feu. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que les moyens ont été à la hauteur? Ils deviennent politiques, hein, ces questions de moyens. On a vu Jean-Luc Mélenchon qui reprochait à Gabriel Attal d'avoir coupé des budgets. Gabriel Attal qui dit « mais j'ai pas coupé les budgets, c'est simplement que l'entreprise elle-même n'était pas capable de livrer davantage que deux canadaires qui ont certes été commandé, mais toujours pas livré. Bref, où est-ce qu'on en est de cette chaîne de décision et de moyens en France?
Écoutez, en tout cas, sur Fontainebleau, tout a merveilleusement fonctionné. Et c'est le sentiment que m'ont donné les pompiers, les gendarmes, les agriculteurs, les maires, tous les bénévoles que j'ai vus sur le terrain. Ils m'ont dit à quel point nous étions professionnels dans notre gestion des incendies. Moi, j'ai rencontré des pompiers du Var qui avait fait des exercices, qui était venu en renfort, des pompiers bretons et nos pompiers d'Île-de-France sont tous maintenant organisés en solidarité. Donc tous les départements d'Île-de-France avaient convergé sur la Seine-et-Marne. Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils faisaient des exercices en commun. Les pompiers d'Île-de-France étaient allés à Marseille sur les feux marseillais l'année dernière. Ils étaient allés dans le Var s'exercer. Donc en réalité, on a, j'allais dire, une armada de pompiers qui est extrêmement professionnelle. Nous, en forêt de Fontainebleau, ils avaient mis, c'était très visionnaire, des caméras de surveillance avec intelligence artificielle sur 3 pylônes électriques qui couvrent toute la forêt. Donc en fait, ils ont pu repérer tous les départs d'incendie 45 minutes avant que des alertes soient données par l'homme. Donc en réalité, on a aujourd'hui des pompiers professionnels qui sont extraordinairement
humains.
Les moyens humains étaient là, bien sûr, puisque tout le monde a été rappelé. Les congés ont été annulés. Enfin bon, donc les moyens humains étaient là. Il y a eu des renforts de toute la France. Les Canadairs sont arrivés, mais aussi des hélicoptères. Les agriculteurs.
Est-ce que ça veut dire que vous...
Allez-y, parce que
les agriculteurs se sont énormément mobilisés
oui,
aussi.
Oui, les agriculteurs avaient l'habitude avec les pompiers de faire des exercices, justement pour éviter les incendies dans les champs, et donc les agriculteurs sont arrivés avec des cuves de méthaniseurs remplies d'eau, on a fait des piscines d'eau, donc il y a eu une chaîne de solidarité incroyable qui s'est mise en place. Les maires, pareil, m'ont dit que la Croix-Rouge avait été impeccable, est arrivée immédiatement avec les Lipico pour les 800 personnes qui ont été évacuées. Donc la vérité, c'est que tous ceux qui polémiquent sur l'absence de moyens ou en fait ne savent pas ce qui s'est passé. Cette formidable mobilisation de tout le monde. Alors c'est vrai qu'il y avait un peu d'improvisation, mais vraiment beaucoup de professionnels.
Ça veut dire que vous estimez que faire de la polémique sur les moyens, le nombre de Canadairs, ça n'est pas le moment, ça n'est pas le lieu.
Non, moi ce que je crois, c'est que effectivement avec le réchauffement climatique, il faut qu'on voit plus loin. Il faut qu'on voit plus loin. Moi, ce qui a marché dans la forêt de Fontainebleau, on doit le dupliquer dans la forêt de Rambouillet, dans la forêt de Montmorency, partout en Île-de-France, puisque désormais nous avons compris que même le nord de la France allait être soumis à ce risque incendie autant que le sud. Donc évidemment, il va falloir qu'on adapte.
Il va falloir renforcer les moyens.
Bien sûr, il va falloir utiliser ces capteurs avec intelligence artificielle pour les incendies, non seulement à Fontainebleau, forêt classée, mais ailleurs. Il va falloir aussi qu'on développe, et ça c'est vraiment quelque chose d'important en termes de souveraineté, une filière d'avions bombardiers d'eau. Et je sais que à Toulouse, du côté de Toulouse, il y a des entreprises qui sont en train de travailler sur cette filière.
Vous demandez aujourd'hui au président de la République qui se rendra sur place de remettre de la souveraineté, y compris sur cette question-là. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ce qui a bloqué. C'est-à-dire que précisément, si on n'a pas pu commander autant de Canadair que initialement envisagé, c'est semble-t-il aussi parce que notre filière n'était pas en mesure. Et d'ailleurs, on peut même préciser qu'aucun Canadair n'est sorti aujourd'hui des chaînes de production en France.
Mais parce qu'il n'y a pas de Canadair européen. Aujourd'hui, on n'a pas de filière européenne. C'était les Canadair, c'est une entreprise qui est une entreprise canadienne. Moi, ce que je demande aujourd'hui, je voudrais lancer solennellement sur votre antenne une grande initiative de régénération de cette forêt. Parce que la forêt de Fontainebleau, c'est le poumon vert de l'Île-de-France, mais c'est aussi une forêt classée au patrimoine
ça
mondial.
Veut dire quoi ?
C'est une réserve de biodiversité incroyable.
Ça veut dire quoi, régénération ?
Régénération, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table avec l'ONF qui gère la forêt, c'est une forêt domaniale, une forêt d'État, avec l'ONF, avec les associations environnementales, mais aussi avec les services d'incendie et de secours qui nous ont dit à quel point cette forêt, elle est inextricable, elle est inatteignable parce que il n'y a pas d'accès pompier, alors que dans le Var, aujourd'hui, avec l'expérience qu'ils ont, ils ont créé des accès pompiers. Et nous, on ne peut pas se permettre une deuxième fois de perdre cette ressource de forêt. Donc quand on va la régénérer...
Cette initiative, elle doit être prise par le président de la République, elle doit être prise par la région.
Écoutez, moi, en tout cas, en tant que président de la région, je souhaite cette initiative. Je souhaite que cette initiative, elle soit prise comme on l'a prise pour Notre-Dame. Notre-Dame a brûlé, on a reconstruit Notre-Dame. Fontainebleau brûle, on doit régénérer Fontainebleau. Et de la même façon, il faut mobiliser les énergies, mobiliser tous les amis de la forêt de Fontainebleau, mobiliser tous les mécènes pour replanter. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Fontainebleau, c'est au patrimoine naturel, ce qui s'est un peu passé avec Notre-Dame. Pour le patrimoine historique. Donc j'appelle le président de la République à prendre le leadership aussi de cette initiative, s'il le souhaite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il va falloir tirer toutes les leçons de ce qui s'est fait et développer nos moyens de lutte. Les moyens de lutte, c'est effectivement cette filière française, cette filière européenne de rétrofit d'avions. Parce que on peut faire, plutôt que de développer un avion spécial qui mettra des années, moi je connais, je gère en Ile-de-France, vous le savez, beaucoup de projets de train, beaucoup de projets industriels.
Et c'est extrêmement long.
C'est très très long et ça a toujours du retard. Donc au lieu de faire ça, essayez de travailler, et je sais que ça se fait du côté de la région toulousaine, qui est une grande région aéronautique, le rétrofit d'avions pour pouvoir avoir des moyens supplémentaires.
Valérie Pécresse est arrivée aussi dans un contexte de canicule, deux vagues de canicule, et c'est la région Ile-de-France et c'est Paris qui ont été les plus touchés par la surmortalité, passe parce qu'ils y faisaient plus chaud qu'ailleurs, mais aussi parce que précisément, il y avait un habitat plus difficile à adapter, qu'il y avait une population parfois plus précaire. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il y a eu une responsabilité de l'État, d'un certain nombre de politiques, à ne pas adapter le bâti face à ces chaleurs extrêmes ?
Alors d'abord, l'adaptation au réchauffement climatique, c'est pas quelque chose qu'on a découvert aujourd'hui. On a, depuis la canicule de 2003, et singulièrement depuis que je suis présidente de région, nous avons travaillé à adapter tous nos bâtiments
au réchauffement. Mais vous dites qu'on a 10 ans de retard.
Nous avons travaillé à adapter tous nos bâtiments au réchauffement. Le problème, c'est que nous n'avons pas cette culture des grosses chaleurs. Et la culture des grosses chaleurs, elle conduit effectivement les habitants à avoir des habitudes très différentes. Elle conduit aussi les propriétaires privés à avoir des habitations qui sont beaucoup plus climatisées. Est-ce que vous savez que la région, par exemple, a une carte aujourd'hui de tous les îlots de fraîcheur d'Île-de-France ? C'est-à-dire que tous les points rafraîchis, tous les endroits qui sont climatisés sont sur une carte qu'on peut consulter sur le site de la région pour aller se rafraîchir dans la journée si on se sent.
Il y a la question du rafraîchissement dans la journée, mais il y a aussi la question du logement. Et la surmortalité, elle a été surtout du fait de personnes qui sont mortes chez elles. Valérie Pécresse, quand vous entendez le maire de Paris qui dit « climatiser chez soi, c'est réchauffer son voisin », est-ce que aujourd'hui vous dites bah oui, il faut interdire les clims, ou est-ce qu'au contraire vous dites il faut aller davantage vers la clim?
La clim sauve des vies, donc il ne faut pas être anti-clim. D'ailleurs, moi, au niveau des transports en commun, quand je suis arrivée en 2015, il y avait un tabou total. C'est-à-dire
tabou.
Que oui, parce que les écologistes avaient interdit d'acheter des bus climatisés. Donc la gauche qui gérait la région avait interdit l'usage de la clim dans les bus parce que ça polluait. Et effectivement, d'ailleurs, c'était un peu absurde. Ils achetaient des bus diesel qui polluaient et donc ils mettaient pas la clim dedans parce que la clim, c'était double pollution. Moi, j'ai dit, on va faire autre chose. On va acheter des bus électriques, dépolluer et décarboner, et on mettra la clim dedans. Donc, double gain. Voilà. Simplement, c'est un mouvement, la climatisation, qui est très long, très lent, parce qu'il faut changer les dépôts de bus, parce qu'il faut acheter des bus électriques, parce que la production de bus électriques est en retard. Moi, j'attends 1000 bus qui n'ont pas encore été livrés. Mon RER B, je l'appelle mon, parce que c'est mon projet de cœur. Ce RER B, je l'ai commandé, il est totalement climatisé. Il a été commandé en 2020. Il a déjà 3 ans de retard. Bon, il va arriver. Il sera là en 2029. Il est déjà en train de rouler à Valenciennes. Il est magnifique. Mais j'aurais aimé qu'il soit là pour cette canicule, parce que le confort pour tous les usagers aurait été incroyable. Donc oui, on a déjà adapté beaucoup de choses. Mais vous avez pointé quelque chose, Madame de Malherbe, qui est une singularité de l'Île-de-France. C'est la solitude. C'est la solitude. À Paris, 40% des Parisiens vivent seuls. Et quand on vit seul, eh bien, on est plus fragilisé. On est plus fragilisé parce qu'il y a moins de liens sociaux et parce que, effectivement, si on se sent pas bien, on a personne.
Mais ça, pardon.
Personne à qui appeler. Eh bien, il va falloir qu'on crée du lien social. Il va falloir qu'on crée des réseaux qui appelleront les voisins. Il va falloir qu'on recrée des solidarités qu'on a dans les villages, qu'on a dans les villes moyennes, qui, malheureusement, se sont perdues à la capitale. Et c'est très intéressant de voir que, en banlieue, il y a eu beaucoup moins de victimes. Ça veut dire que les réseaux de solidarité, dès qu'on est dans une ville à taille humaine, sont plus forts qu'à Paris.
Valérie Pécresse, je voudrais vous interroger aussi sur les erreurs judiciaires, et une en particulier qui a provoqué un très grand émoi, et notamment dans la famille de Chemseddine. Chemseddine, c'est ce jeune homme, 15 ans, qui avait été battu à mort à la sortie de son collège à Viry-Châtillon, en Essonne, par d'autres adolescents qui lui reprochaient d'avoir des liens avec leur sœur, et qui donc l'ont battu
à mort. Parmi ces jeunes mineurs à l'époque qui l'ont battu à mort, deux ont été remis en liberté il y a quelques jours et de manière quasi triomphante sur les réseaux sociaux, leurs copains les accueillaient à la sortie de la prison. Ils avaient été mis en examen, ils étaient effectivement retenus en prison de manière préventive et le ministère de la Justice évoque une erreur de droit dans le cadre aussi de ce fameux vide juridique qui a aussi été évoqué dans ce point. La famille de Shamsidine se dit anéantie, littéralement effondrée. Comment vous réagissez ?
Comme elle, je suis anéantie et effondrée. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que il ne faut plus que le droit soit contraire au bon sens. Il ne faut plus que les décisions judiciaires soient contraires à la sécurité des personnes. Aujourd'hui, on a des criminels ultra violents qui sont incarcérés, qu'ils soient majeurs, qu'ils soient mineurs, ils sont ultra violents. Il faut protéger la société de ces mineurs ultra-violents ou de ces majeurs ultra-violents, de ces criminels. Et donc, je pense qu'il faut que le juge fasse très attention. Aujourd'hui, c'est vrai que quelquefois, on a des complexités du droit et des complexités procédurales qui sont très fortes, mais on ne peut pas juger en procédure. On doit juger aussi avec son cœur, avec sa conscience et avec le souci permanent de protéger la société.
Comment expliquer à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, que deux hommes qui ont, semble-t-il, l'enquête évidemment devra aller jusqu'au bout, battu à mort un autre jeune homme, aient été libérés sur une histoire de procédure?
Ça s'appelle une erreur judiciaire, mais il faudrait qu'on arrive à trouver un moyen. Je ne sais pas comment on trouve la solution. C'est pas simple, parce que le juge, il juge en droit. Il juge en droit, il applique le droit. Là, il a fait une erreur de droit. Ça s'appelle une erreur judiciaire. C'est une erreur du système judiciaire. Et il faut aujourd'hui vraiment que le ministère de la Justice puisse avoir les outils pour contrer ces erreurs judiciaires.
La loi fin de vie a été adoptée hier soir. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise ?
Moi, je suis un peu triste sur cette loi aussi. Vous allez me dire, je suis triste sur beaucoup de sujets.
L'époque n'est pas joyeuse.
Non, l'époque n'est pas joyeuse. Je suis triste parce que je trouve que la loi qui a été votée est clairement pour moi déséquilibrée. Elle est déséquilibrée parce que elle n'apporte pas aux personnes les plus vulnérables les garanties de protection que la société française doit leur donner. Parce que, alors, moi, je suis une petite fille de psychiatre. Mon grand-père m'a toujours dit. Et j'ai été élevée en partie par mon grand-père. Il m'a toujours dit que, eh bien, il avait rencontré dans sa vie des gens qui, un jour, voulaient mourir, avaient des pensées suicidaires, et qui, quelques semaines plus tard, pouvaient être complètement guéris. Donc, il faut faire très attention. Il faut que cette loi, elle veille à mettre des garde-fous qui protègent les plus vulnérables, qu'on ait un délai de rétractation, qu'on ait l'accès aux soins palliatifs pour tous. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de personnes souhaitent en réalité être soulagées de leur douleur, mais aller jusqu'au bout de leur vie. Et en fait, quand ils n'ont plus d'espoir, quand ils sont confrontés à la douleur seuls, que, évidemment, ils peuvent prendre des mauvaises décisions. Et puis, par ailleurs, il faut protéger vraiment les personnes qui seront sous tutelle, sous curatelle. Enfin, il faut faire très attention.
Vous êtes inquiète ce matin.
Moi, je suis inquiète. Je suis inquiète de cette loi. Et pourtant, au démarrage, je voyais bien qu'il y avait des failles dans la loi Claeys-Leonetti, qu'il y avait peut-être nécessité, pour certaines maladies neurodégénératives, de trouver des solutions qui permettraient de soulager les souffrances. Donc, vous voyez, j'étais ouverte. Mais là, je trouve que la loi telle qu'elle est votée, elle m'inquiète.
Bruno Retailleau parle d'une loi d'abandon. Bruno Retailleau, président des Républicains, candidat à l'élection présidentielle, est-ce qu'il sera votre candidat ?
Écoutez, aujourd'hui, on a besoin du message qui est porté par Bruno Retailleau. On en a besoin parce que on a besoin que le message d'une droite très forte, très affirmée, soit porté dans cette présidentielle parce que la France a besoin d'ordre.
Est-ce que ça peut être lui ?
La France a besoin d'ordre. Aujourd'hui, sa candidature est totalement légitime. Le message qu'il porte est un message important. Mais mon sujet, aujourd'hui, c'est vraiment qu'on se mette d'accord sur les mesures qu'il faut pour redresser la France. Quand je vois aujourd'hui que, finalement, cette présidentielle semble ne se résumer qu'à des casting de personnes, je suis très inquiète. Qu'on regarde Marine Le Pen et son programme, qu'on regarde où en est la France aujourd'hui, qu'on soit au clair sur les décisions très difficiles qu'il va falloir prendre pour sauver le pays.
Vous avez peut-être vu,
la caisse a été cramée, on n'a plus d'argent. J'étais il y a quelques jours au Festival d'Avignon avec les troupes d'Île-de-France pour les accompagner, tout l'écosystème culturel qui s'inquiète parce qu'on lui coupe ses crédits en plein milieu d'année, en mettant tout le monde culturel par terre. Pourquoi l'État a pris cette décision de couper les vivres au monde culturel en plein milieu d'année alors que tous les budgets sont votés? Tout simplement parce qu'on n'a pas le courage de faire les réformes structurelles dont le pays a besoin. La réforme des retraites, qui nous coûte des milliards chaque année. Et comme on n'a pas le courage de dire aux Français qu'il faudra faire cette réforme, comme dans tous les pays du monde,
c'est ce que vous dites.
Eh bien, on ne fait pas, on fait quoi? On tue un écosystème culturel de 140 000 emplois en Ile-de-France, 500 000 emplois en France.
Absurde. Valérie Pécresse, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde.
Pardon, mais les décisions à courte vue. Madame de Malherbe.
Ce genre de conséquences. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui est à la tête d'un certain nombre de réseaux sociaux et de X, s'est exprimé hier en disant que pour lui, Marine Le Pen était la dernière personne qui pouvait sauver la France.
Écoutez, si Monsieur Musk avait la moindre idée de ce qu'il faut pour sauver la France, ça se saurait. Donc,
Est-ce que c'est une forme d'ingérence?
Mais, franchement. Il n'y a pas un Français qui va voter selon les consignes d'Elon Musk. En revanche, d'ailleurs, ça peut peut-être être dissuasif, ce qui serait une bonne chose. Parce que le sujet, c'est que Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose la retraite à 62 ans, la retraite à 60 ans. Eh bien, écoutez, c'est ça, c'est la faillite de la France. La faillite de la France. Et donc, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de parler casting, il va falloir qu'on parle projet, il va falloir qu'on parle programme, et il va falloir qu'on s'entende, il va falloir qu'on ait le courage de dire la vérité aux Français. C'est que si on bosse pas un tout petit peu plus, eh bien, on va être obligé de couper dans ce qu'on a de plus précieux, nos services publics, notre culture, là aujourd'hui l'apprentissage qui est en train d'être laminé, là aussi en cours d'année. Donc vous voyez, on fait des mauvais arbitrages.
Donc faire des bons arbitrages. Merci beaucoup.
Mais dire la vérité aux Français, s'il vous plaît.
Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC BFM TV. Et dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction et puis toutes les dernières informations de la Coupe du Monde.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 et vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, le mondial d'Antoine. Avec vous, Antoine Salva. Bonjour Antoine.
Bonjour Apolline.
Vous allez nous donner les noms des deux finalistes, évidemment, de la Coupe du Monde. On va pouvoir se projeter avec vous. Mais avant ça, le choix de la rédaction. Avec vous, Louise Salé. Bonjour Louise.
Bonjour Apolline.
Troisième canicule en trois mois. Si on rajoute à cela les incendies, la sécheresse, les orages, l'angoisse du changement climatique frappe de plus en plus de Français.
Oui, elle a un nom, hein, c'est l'éco-anxiété. Alors j'ai discuté avec Simon, ingénieur et père de deux enfants. Il se dit éco-anxieux d'après le dictionnaire. C'est une forme d'anxiété liée à un sentiment d'impuissance face au dérèglement climatique. Ce n'est pas une maladie mentale, mais c'est un état de détresse psychologique. Simon est suivi spécialement sur ce sujet depuis un an. Et ces deux derniers mois, il a multiplié les séances pour tenir le coup.
J'ai des bouffées d'angoisse, de stress. Moi, je suis extrêmement inquiet pour mes enfants et surtout très triste. La végétation dépérit. Ça m'angoisse de façon désespérante. Et je me dis que dans 10 ans ou 20 ans, si c'est bien pire, je ne sais pas comment on pourra faire.
Cette peur de l'avenir, Lucie, 27 ans, en région parisienne, la ressent aussi.
Le jour où on se tape 50 degrés et on a des pénuries d'eau, il n'y a aucun de nous qui est prêt à ça aujourd'hui, quoi. Mais oui, je pleure beaucoup. Il y a des choses que je vois sur les réseaux, notamment des vidéos de la Loire, qui était devenue tellement chaude que sur tous les bords de Loire, t'as des milliers de poissons morts qui flottent, quoi. Et de se dire, mais en fait, tout ça, c'est juste de notre faute, quoi. Enfin, je pense qu'on va avoir énormément de morts humains aussi à la suite de toutes ces canicules, en fait. Et ça va être de pire en pire.
Elle voit une psychologue, hein, depuis longtemps pour des angoisses sans lien avec le changement climatique, mais elle aborde souvent en consultation cette inquiétude qui la ronge.
Est-ce que l'on peut quantifier le nombre de consultations sur l'éco-anxiété en ce moment?
Alors non, c'est compliqué à mesurer, mais les psychologues spécialisés que j'ai interrogés remarquent une hausse des suivis depuis la canicule de mai. Ils font partie d'un réseau de professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique et la psychologue Anne Jacob fait partie de ce collectif. Elle exerce à Nantes.
En l'espace de 2 semaines, j'ai eu 3 fois plus de demandes que ce que j'ai d'habitude en un mois. Certains sont profondément catastrophés, si ce n'est désespérés. Il y a des personnes qui se posent la question de est-ce qu'on va avoir assez à manger. Là, j'ai une séance qui m'a quand même un peu chamboulée avec une personne qui a pu exprimer des pensées suicidaires.
Elle reçoit aussi des gens qui n'avaient jusqu'ici pas de conscience écologique, hein, forcément, mais qui ressentent cet été un stress important lié à l'organisation de journées perturbées par la chaleur, de vacances proches de feux de forêt, d'activités professionnelles chamboulées par par les canicules. D'après l'INSEE, dans une étude publiée en mai, 2 Français sur 5 sont très inquiets des effets du dérèglement climatique. Et d'après l'Agence de transition écologique, l'ADEME, 1/4 des Français sont éco-anxieux, davantage dans les zones urbaines, parmi les plus diplômés et surtout les femmes.
Comment faire alors pour soigner cette éco-anxiété, Louise ?
En réfléchissant à s'adapter à ce climat qui change, hein, en s'entraidant aussi collectivement et puis en agissant concrètement contre le dérèglement climatique. Alors bien sûr, les gestes individuels, hein, c'est une goutte d'eau dans un océan d'efforts à faire pour que le monde n'émette plus de CO2. Mais il est possible de faire passer des messages, de sensibiliser. Ça apaise, hein, les patients que j'ai interrogés. Lucie, entendue au début de cette chronique, est chef de cuisine végétarienne. Et ce qui la motive, eh bien, c'est d'inventer des repas savoureux qui réduisent l'empreinte carbone des assiettes de ses clients.
Merci Louise Salé. Chacun ses manières, effectivement, de lutter. Donc, reporter au service Société d'RMC, avec Lou Garnier également. La France est éliminée, mais la Coupe du Monde se poursuit quand même.
RMC, le mondial d'Antoine.
Antoine Salva, journaliste RMC Sport, vous êtes toujours avec nous. Antoine, vous revenez sur la qualification de l'Argentine hier, l'incroyable caractère de cette équipe.
Oui, le conflit historique des îles Malouines entre les sujets de Sa Majesté et les Argentins était bel et bien présent dans les têtes, surtout celles des Sud-Américains qui ont allègrement sifflé « God save the King ». Derrière, pour masquer les sifflets anglais sur leur hymne, les joueurs et le staff de l'Albi Céleste en transe se sont époumonés, donnant le ton d'un début de match tendu, haché par les fautes, 19 en première période et des séquences typiques de joueurs argentins, provocateurs, rugueux, à la limite de l'acceptable par moment. Bref, tout ce qui fait que l'on peut légitimement les détester. Alors côté jeu, pas grand chose à se mettre sous la dent, jusqu'au but anglais de Gordon en deuxième période. Et derrière, tout a changé. Quand Thomas Tuchel a mis le but, c'est que l'Angleterre s'est arrêtée de jouer. Les Argentins ont quitté les gants de boxe pour mettre leur vice et leur énergie au service du jeu. Et cela, ils savent le faire dans le sillage de Léo Messi, double passeur sur les buts d'Enzo Fernandez et de Lautaro Martinez en fin de match.
Messi sur le côté droit de la surface de réparation qui accélère, le pied droit, le centre au deuxième poteau, c'est Lautaro et l'Argentine qui vient tuer l'Angleterre.
L'Argentine de Messi s'impose 2-1 et écarte l'Angleterre comme en 86 avec Maradona pour se hisser en finale.
Oh Antoine, la résilience de cette équipe semble ne pas avoir de limite.
Oui Apolline, dans ce tournoi, la sélection entraînée par Scaloni a montré une capacité folle à renverser des matchs mal engagés, menés par le Cap-Vert, l'Égypte, bougé par la Suisse. Les Argentins sont à chaque fois revenus avec la recette que l'on connaît, pas toujours jolie, hein, mais qui leur ressemble, sur notre collègue Georges Quirino qui a vécu en Argentine.
Ils ont cet ADN argentin de jamais renoncer dans les moments difficiles, comme cette société qui doit faire face aux crises multiples, économiques, sociales.
Quelle que soit notre opinion sur l'Albi Céleste, elle est désormais en mesure de défendre son titre dimanche face à l'Espagne et d'ajouter un 5e sacre mondial à son palmarès.
Alors joie côté argentin bien sûr, du côté des Anglais c'est la soupe à la grimace ce matin.
Oui, ils menaient 1-0, ils se sont totalement arrêtés de jouer en grande partie à cause de leur coach, le capitaine Harry Kane en avait gros sur la patate hier.
On a fait un bon match pour la majorité, mais après avoir mené, on a juste voulu tenir le score et c'est pas assez de faire ça. On est vraiment dégoûté.
Une critique à peine voilée, hein, des pincettes que les médias anglais ne se sont pas embarrassés de prendre. Sur la BBC, l'ancien attaquant de Manchester, Wayne Rooney, a estimé que les décisions prises par Thomas Tuchel ont coûté la qualification à l'Angleterre. Et le sélectionneur va tout de même rester en place jusqu'au prochain Euro.
Antoine, avant la grande finale, il y aura aussi la petite finale, samedi soir, l'équipe de France face à l'Angleterre. Donc.
Oui, ce sera donc le dernier match de Didier Deschamps à la tête des Bleus, encore groggy par leur élimination. Un match que ne disputera pas William Saliba, blessé au dos. Il va se faire opérer, être absent 4 à 5 mois. Bon, quoi qu'il en soit, le sélectionneur devrait faire tourner. Hein. Bon courage pour trouver la motivation pour cette petite finale.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Salva, journaliste RMC Sport, France-Angleterre, la petite finale à 23h donc, samedi soir et à vivre sur RMC en direct de Miami. Il est 8h57 sur RMC. Je vais passer la main évidemment au GG dans un instant, mais je voulais également souhaiter à ceux qui pourront en prendre de très bonnes vacances. Pour ma part, je vais m'arrêter quelques temps, quelques semaines. Je suis de retour le 24 août pour mon plus grand bonheur et j'espère le vôtre pour vous accompagner pour une saison encore. Merci de votre fidélité, merci d'avoir été toujours plus nombreux cette année à choisir Apolline Matin pour vous réveiller. Et puis merci à chacun, merci en particulier à tous ceux qui vous répondent au 32-16, Clément, Alex, Quentin, Hubert qui sont au standard. Merci à Cédric, Laurie, Tom, Nicolas qui travaillent avec moi. Merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Merci à tous ceux qui sont à l'antenne. Merci à chacun aussi des témoignages que l'on a reçus chaque matin de vous tous, auditeurs. Vous faites cette matinale et 2027, on va avoir encore plus besoin de vous, de vos questions, de vos témoignages, de vos réactions. Vivement le 24 août donc, mais d'ici là, vous inquiétez pas, vous serez entre de bonnes mains. En attendant, il est 8h58 sur RMC et les GG, quel est le programme, Olivier ?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent à débattre de l'actualité pendant 3 heures à partir de 9h jusqu'à midi sur RMC, RMC Story. Autour de la table aujourd'hui, notre agriculteur Didier Giraud, Flora Guebali, la prof d'histoire géo Barbara Lefebvre et puis face au GG tout à l'heure, l'ancienne ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. À tout de suite.